Hey, how you doing?
Now, say my name.
You can't do anything with the information you have except maybe publish it in the Everyone Thinks We're Insano's home journal.
I come here to help, but y'all out for blood. I'm not answering no more questions.
Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans la saison 2 de Un épisode et j'arrête, le podcast 100% série de l'Association française des critiques de séries, l'ACS, en partenariat avec Binge Audio, une demi-heure ou plus, on est devenu gourmand avec l'été, pour faire, défaire, aimer, détester, décrypter et s'amuser avec les séries et les tendances sérielles, toujours dans la passion critique et la joie journalistique, ça n'a pas changé.
Next one.
That's the last one.
Pierre Langlais de Télérama pour vous servir, entouré pour ce premier épisode de Renan Cros de Cinématiseur. Bonjour Renan.
Salut Pierre.
Florian Caisse de Combinis. Salut Florian.
Salut Pierre.
Et Jean-Maxime Renaud d'Allociné. Hello Jean-Maxime.
Salut Pierre.
Rentrée oblige, on attaque avec l'épisode le plus chargé de l'année. Histoire de se réveiller, nous allons tâcher, chers amis, de revenir sur le meilleur et peut-être sur le pire de l'été qui vient de se terminer avant de sélectionner les nouveautés qui marqueront la rentrée. 5 mois de critiques en moins de 40 minutes chrono. Même pas peur, c'est parti pour l'épisode 1 de la saison 2 de Un épisode et j'arrête.
Enemies to the east. Enemies to the west. Enemies to the south. Enemies to the north. Whatever stands in our way, we will defeat.
Qui dit été dit barbecue, qui dit barbecue dit dragon dit Game of Thrones. Habitué aux douceurs printanières, le blockbuster d'HBO a mis un sacré bazar en déboulant en plein été et en changeant la donne d'une période pourtant majeure ces dernières années. Breaking Bad, Mr. Robot et quelques autres y ont fait leur début. Avant de débattre des quelques nouveautés qui se sont fait une place dans son ombre, nous n'y couperons pas. Que penser de cette saison 7 et qu'en penser sans spoiler, please, puisqu'à l'heure où nous enregistrons cette émission, c'est tout frais. Donc on va essayer de dire ce qu'on a ressenti, puisque tout le monde en parle, puisqu'on ne parle que de ça. Il y a autour de cette table des gens qui n'ont pas envie d'en parler, donc je leur donne la parole en premier. Jean-Maxime, je crois que tu ne tiens pas en dire grand-chose.
Non, je suis un représentant de la Ligue anti-Game of Thrones dans le podcast. En gros, j'ai jamais accroché à cette série, donc j'ai évidemment pas regardé la 7e saison. Mais en tout cas, en ayant suivi quand même de loin tout ce qui pouvait se passer, j'ai remarqué que ce qui ressortait beaucoup, en fait, c'était qui est mort, qui va mourir, qui est mort et peut-être pas, en fait.
Et on va le dire tout de suite, non, je déconne.
et je comprends pas très bien pourquoi les ressorts dramatiques principaux de cette série sont là-dessus, un peu comme Walking Dead d'ailleurs. Moi, ça m'intéresse pas tellement, en fait. Je crois qu'il y a plus de choses à dire sur cette série, j'espère que qui va mourir.
Il y a plus de choses à dire sur cette série que qui va mourir. Renan fait oui de la tête, alors je lui donne la parole.
Déjà parce que c'était la meilleure transition que t'aies fait. La barbecue dragon, je trouve ça vraiment génial. Absolument. Je sais pas comment tu vas faire mieux pour cette saison 2.
Ça va être compliqué.
Mais non, ce qui est intéressant avec cette dernière saison de Game of Thrones, c'est qu'on sent déjà que c'est bientôt la fin, que tout d'un coup ils ont poussé le curseur et la vitesse. Ils découvrent l'ellipse, c'est que tout d'un coup on n'a plus des personnages qui marchent pendant des heures dans la montagne jusqu'à ce qu'il arrive quelque chose à la fin du 40e épisode. Et ben là tout d'un coup ils découvrent l'ellipse, donc ils vont beaucoup plus vite. Ce qui a donné un peu des froide au public, parce qu'on comprenait plus très bien la logique de la série. On sent vraiment que tout d'un coup, là, on est dans le méga blockbuster. C'est-à-dire que la série devient un méga blockbuster soap opéra avec des retournements de situation, des révélations, des je suis le fils de machin et ainsi de suite. C'est plutôt très rigolo. Moi, j'en avais vraiment marre de cette série. Je trouve que cette saison 7, elle est à la hauteur, en tout cas, de ce qu'un grand divertissement américain peut produire aujourd'hui.
Florian, d'accord, pas d'accord?
Plutôt d'accord, ouais, le côté blockbuster, tout ça, enfin le côté narratif en fait de Game of Thrones a totalement shifté en fait en l'espace d'une saison, mais je pense que c'est un rapport aussi à le fait que George R. R. Martin, donc l'auteur, les bouquins sont plus sortis à partir de là, donc forcément ils ont dû faire un petit peu dans l'impro, même si il leur a donné des directives, mais ça reste quand même très addictif comme série, ça se laisse largement regarder, mais c'est vrai qu'il y a du coup des trous, des reproches qu'on peut faire en fait, notamment du coup, mais ça, les ellipses. ces moments de téléportation, tout ça, et des...
Il y a une théorie qui dit qu'il y aurait un métro à grande vitesse qui passe sous Westeros et qui permettrait aux personnages et aux corbeaux, il y a un compartiment corbeau, d'aller extrêmement vite pour aller
si
livrer
le découvrir avant, ça aurait été bien, mais bon,
c'est ça. Mais moi, je suis pas d'accord, justement. Alors après, évidemment, je fais faire le rabat-joie de service. Ça fait 6 ans que je me plaignais que ce soit trop long, que ça prenne des plombes, qu'il y avait pas assez de bastons. Et là, je trouve qu'en fait, ils sont passés de la première à la sixième sans transition, et du coup, la boîte à vitesse a fait un sacré et j'ai un petit problème avec l'action à volonté, que de l'action et encore de l'action, et du coup on oublie un petit peu que finalement, alors peut-être de force, ce qui avait fait qu'on aimait Game of Thrones, c'était les longs dialogues bien ciselés, les personnages à la psychologie complexe. Et alors peut-être que maintenant que les personnages sont bien posés, c'est plus la peine de passer des heures à les redéfinir, mais moi finalement dans cette saison, c'est pas tant les scènes de combat, d'ailleurs je trouve que la bataille des bâtards de la saison d'avant était au-dessus de n'importe laquelle des batailles de cette saison 7, niveau de ce que j'ai pris dans la poire à ce moment-là, c'est la scène où Jon Snow se tient au milieu des chevaux, là pour moi c'est un truc le plus dingue que j'ai vu à la télévision depuis toujours. Et du coup, les quelques scènes vraiment bien écrites, bien ciselées de cette saison 7, j'ai fait « Ah, finalement c'est ça que j'aime dans Game of Thrones, c'est cette finesse psychologique et la qualité de l'écriture, et la baston, bah c'est mignon, mais finalement, bah si j'ai envie d'une énorme baston, je vais voir Avengers au cinéma, quoi. »
Sauf que quand même, il y a un côté feu d'artifice qui était quand même attendu depuis quasiment la saison 1. C'est une récompense pour le public.
D'où mon côté rabat-joie volontaire, je l'admets.
Ouais, mais enfin, je trouve que c'est rare qu'une série soit aussi généreuse. Et on sent d'ailleurs effectivement que ils ont plus le poids des livres et que tout d'un coup ils donnent au public et que c'est presque le reproche qu'on pourrait lui faire, c'est qu'elle donne exactement au public ce qu'il a envie d'avoir. Et même avec des intrigues qui sont un peu tirées par les cheveux, des histoires d'amour inopinées, des choses comme ça. Et en même temps, pourquoi pas? Moi, je trouve que c'est un, là, pour le coup, Game of Thrones devient un vrai plaisir coupable.
Parce qu'on veut faire du clic à un épisode et j'arrête, on reparlera de Game of Thrones. En attendant, on va passer à deux autres séries radicalement différentes, qui étaient, avec assez de muscles pour concurrencer Game of Thrones, hein. On va dire que c'était les deux seuls gros morceaux de l'été. Les Defenders de Netflix et le monument Twin Peaks, revenu à la vie plus fort que Jon Snow 25 ans plus tard. Que dire de la première, sorte d'Avengers à la sauce Marvel Netflix, où Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage et l'autre, j'ai oublié son nom, avec un dragon sur le torse, sans doute un fan de Game of Thrones d'ailleurs, se serrent les coudes pour sauver New York. Mission accomplie ou mission ratée que ce Defenders
Next, enfin, c'est vraiment une cata, quoi. C'est vraiment pas bien du tout.
Pire qu'Iron Fist? Non.
Mais non, mais c'est la on parle de marvelisation de la culture, des shared universe, tout ça. Donc là, on en a un exemple, hein. C'est-à-dire qu'on a eu 4 séries et puis tout d'un coup, on les remet ensemble, sauf qu'il faut attendre des plombes avant qu'ils soient vraiment ensemble.
Ça prend la moitié de la saison à peu près. Il y a 8 épisodes, ça c'est une bonne chose. Faudrait qu'ils fassent plus souvent des séries de 8 épisodes par saison Netflix. Oui. Des fois, c'est trop long.
Mais ça manque de swing, ça manque d'idées, ça manque de surprises. Enfin, c'est vraiment un peu laborieux à regarder. Après, si on est ultra fan de ce genre-là, eh ben, tout d'un coup, on a quand même un service minimum, qui est quand même un service minimum de production. Moi, franchement, j'ai abandonné au bout du 3e épisode. Je trouve ça vraiment très ennuyeux.
Jean-Maxime?
Ben, moi, j'ai pas commencé puisque j'ai pas aimé les précédentes séries. Donc, je me suis dit, c'est pas la peine que je regarde.
C'est un aggloméré des séries d'avant. Ouais, voilà. Ça sert à rien de les regarder.
Et d'ailleurs, j'ai l'impression que chaque année, enfin, pour chacune de ces séries, les gens sont pas vraiment satisfaits. Et donc, je comprends pas comment on se fait avoir 5 fois à regarder.
On vous rassure, chers auditeurs, Jean-Maxime a vu des séries dont on a parlé aujourd'hui. Hein, ça, c'est sûr. C'est juste pas de pause, c'est les deux premières. C'est ça, en fait. Il revient d'Hawaï, il a pas vu une série cet été, mais il est venu.
Je les assume. C'est des séries que j'ai pas voulu regarder.
Les autres, tu les as regardées, on va en parler évidemment. Florian, ton point de vue sur ces Defenders?
Alors, Defenders, moi, j'avais suivi juste avant Jessica Jones. C'était la seule série que j'ai vue. Et j'ai voulu la regarder, Defenders, pour retrouver Jessica Jones, son cynisme et tout ça, qui était là. C'était sympa de l'avoir interagi avec Daredevil. Notamment, mais après pour moi c'était un gros plantage en fait. C'était vendu depuis le lancement en fait de la toute cette écurie.
Ça devait être l'apogée. C'était le moment qu'on attendait tous.
C'était la consécration un peu tous la retrouvaille. On s'attendait à un énorme fight tout ça et ça y est pas. En fait même les méchants sont pas vraiment des méchants tellement ils ont pas le côté antagoniste, ils ont pas la grandeur qu'on attendait en fait.
Ah c'est sûr que ça vaut pas le vilain comme on dit de Daredevil, donc évidemment le nom m'échappe immédiatement, Wilson Fisk, qui était quand même quelque chose de, surtout dans la saison 1, après on pense qu'on pense du Punisher etc, qui est aussi un personnage vachement intéressant. Moi ça reste Daredevil ma préférée, on a chacun dans notre préféré, moi je préfère Daredevil. Et pour vous donner mon avis sur Defenders, c'est vrai que 4 épisodes pour vraiment lancer l'intrigue, c'est chaud. Et alors moi j'ai un problème, c'est que en fait les faiblesses des personnages ressortent énormément, c'est-à-dire que ce qui ne marche pas chez chacun d'entre eux est beaucoup plus visible dans Defenders que dans les autres séries. Et en fait, la qualité de l'interprétation aussi, c'est-à-dire que Mike Colter, le héros de Luke Cage, on voit tout de suite que c'est un mec qui est hyper souple, hyper bon comédien, ses textes viennent tout seuls. Le pauvre ami d'Iron Fist, dont évidemment je fais exprès d'oublier le nom parce que...
Tout le monde l'oublie, Iron Fist, hein. Ouais, voilà, vraiment, c'est pas possible.
C'est tragique. Eh bien, lui, on voit qu'il est moins bon comédien, etc. Et en gros, tout ressort. Et ce qui nous plaisait dans les autres séries, bah, nous plaît ici. Ce qui nous plaisait pas est beaucoup plus difficile à porter. Et c'est vrai que faire 8 épisodes pour prendre 4 épisodes pour qu'enfin ça chauffe un peu, c'est problématique.
Mais c'est presque, ils auraient presque dû quasiment en faire un film Netflix pour que ça marche, en fait. C'est tellement, le principe d'épisode n'a pas de sens, puisqu'il faut quasiment, oui, attendre 3 épisodes pour que ça s'enclenche.
Parce qu'il faut que les gens qui n'ont pas vu les autres séries puissent comprendre de quoi il retourne, ce qui est quand même impossible à faire.
Donc en fait, c'est une série qui n'a pas de sens. Enfin, c'est-à-dire qu'on regarde ça, on attend que ça...
C'est une mini-série d'ailleurs.
Oui, c'est ça. Mais ouais. Vraiment, je trouve que les personnages ont l'air de s'ennuyer autant que nous. Enfin, il y a un truc un peu désastreux à regarder.
Terminons ce premier chapitre avec un mot sur Twin Peaks, hein, là on passe vraiment du coq à l'âne. Twin Peaks qui, disons-le, fait un four côté audience, un four total même, mais qui retourne le cerveau de ceux qui s'accrochent. Retour gagnant ou Black Cosmic de David Lynch, votre avis, chers amis?
Alors ça j'ai vu, donc je vais peut-être en parler.
Vas-y.
Moi je suis un peu mitigé, j'en attendais pas forcément grand-chose, donc je suis pas forcément déçu, mais en fait je comprends pas très bien ce que David Lynch a voulu faire. Je pensais qu'il voulait, un petit peu comme la première série, s'adresser à un public le plus large possible, et c'est pas du tout le cas. C'est vraiment pour les fans de David Lynch, même pas pour les fans de Twin Peaks en fait, parce qu'on est assez peu récompensé quand on a aimé Twin Peaks les deux premières saisons. On revoit peu de personnages, quand on les revoit ils servent pas à grand chose, bon ils font un peu de la figuration. On est très peu à Twin Peaks en plus, en tout cas au début, on est à Las Vegas, on est un peu partout, mais on n'est pas à Twin Peaks, ce qui est quand même un peu une trahison pour moi de la série originale. Et surtout c'est la série de David Lynch et pas de Mark Frost. Ils étaient ensemble sur la première série, même c'était plus la série de Mark Frost que David Lynch. Et là je sais pas très bien ce qu'a fait Mark Frost, mais c'est pas vraiment une série, c'est... comme David Lynch l'a dit, un film très très long.
Florian ?
Alors moi, j'ai pas du tout suivi Twin Peaks, mais j'ai une question. Est-ce que 18 épisodes, c'était pas un peu long pour ceux qui l'ont vu quand même ?
Ouais, c'est même 8, là, je trouve ça vraiment trop long. Moi, j'ai vraiment trouvé ça... Enfin, j'adore David Lynch, c'est un de mes cinéastes préférés. J'attendais de lui qu'il révolutionne la télé, comme on l'a dit, avec Twin Peaks. Et en fait, il fait exactement ce que j'attends de lui, c'est-à-dire n'importe quoi. Donc en fait c'est n'importe quoi, c'est très beau, c'est très bien fait. Il y a des chambres noires avec des personnages qui parlent à l'envers, qui remontent dans des chaudières, des trucs on comprend rien. Il y a une théière qui parle et tout. Mais en fait il y a un moment, en fait David, tu fais de la télévision. Et en fait ce qui me dérange un peu, c'est qu'on a vraiment, et Jean-Maxime a raison, on a l'impression qu'on lui a fait un chèque en blanc, qu'il a vendu Twin Peaks parce que comme ça, ben il y avait un produit d'appel, et qu'après il a fait n'importe quoi. Mais quand n'importe quoi, pas au sens Lynch n'importe quoi, la rêverie tout ça. C'est-à-dire qu'il a raconté des bouts de trucs. Bah effectivement, à un moment il y a Monica Bellucci. Bon. Mais ça, en fait, rien n'aboutit. Il y a une espèce de succession de petites séquences côte à côte qui donnent l'impression que la série est une sorte d'exercice de style permanent. Alors, c'est très rigolo à regarder quand vous passez l'aspirateur, parce que tout d'un coup, vous relevez la tête et vous dites « Ah oui, tiens, ça c'est joli à regarder, puis vous pouvez faire autre chose. »
Regardez ça en passant l'aspirateur, c'est justement n'avoir aucune chance d'y comprendre quoi que ce soit.
Mais je pense qu'il faut pas essayer d'y comprendre quoi que ce soit.
Écoute, alors d'une part, moi au début, c'est vrai que on ne regarde pas ce Twin Peaks pour se faire plaisir en mangeant des chocolats. On le regarde comme une œuvre d'art contemporain. Moi, c'est comme ça que je la conçois, comme un truc qu'il faut lire, relire, essayer de saisir ses mouvements, ses couleurs. Je pense, alors soit c'est l'arnaque du siècle, c'est pour ça que je pose la question, soit c'est totalement génial, et à mon avis c'est les deux à la fois. Ils ne sont pas là présents, mais j'ai lu ce qu'en ont fait nos amis des cahiers du cinéma, qui quand même réussissent à lire des trucs extraordinaires là-dedans, et je pense qu'ils n'ont pas complètement tort. Il y a forcément des choses extrêmement intéressante dans cette histoire, et il y a des performances d'acteurs incroyables. Ce qui fait faire à Kyle MacLachlan est quand même sidérant, et il y a des propositions de mise en scène, il y a des choses. Alors évidemment, c'est sûr, c'est pas un plaisir. On ne regarde pas Twin Peaks pour le plaisir, et c'est problématique, c'est grave. Mais est-ce que la télévision ne peut pas être aussi cet endroit-là? Regardez tout ce que... Regardez Game of Thrones si vous voulez faire plaisir. Non, est-ce que ça peut être bien aussi des fois de souffrir un peu pour avoir des choses passionnantes qui torturent l'art? C'est pas ça aussi?
Non, je suis pas d'accord, parce que je trouve que justement le numéro des cahiers du cinéma, qui effectivement est très bien fait, c'est ce qui pouvait arriver à mon avis de pire à la série, c'est-à-dire qu'elle soit tout de suite muséifiée. C'est-à-dire que tout d'un coup c'était le retour du grand, et tout d'un coup ce sont des gens qui sont plutôt habitués au cinéma qui s'emparent de la série, alors que justement Lynch, ce qui était génial avec Twin Peaks, c'était qu'il mettait les mains dans la série télé elle-même, c'est-à-dire que c'était une vraie série. Là, ce qui me dérange, c'est que c'est effectivement un film d'une installation d'art contemporain. Mais oui, bien sûr, c'est vrai tout ça, et c'est très beau, et il y a des choses sublimes dans la série, sauf que ce n'est pas une série. C'est-à-dire que profondément, David Lynch a enlever le problème. C'est-à-dire que le problème qui aurait été de refaire une série aujourd'hui, comment on fait de la série, ben il dit, bah non, les gars, je vais pas faire une série, je vais faire ce que je veux. À partir de là, je trouve que, en fait, le défi, il est raté. Donc, c'est un bel objet, mais c'est pas une bonne série.
On va parler de séries neuves, celles-là, pas qui reviennent 25 ans après. Les nouveautés de cet été, on en parle tout de suite.
I got 16 dead, triple that in injuries. Somebody lost control.
He didn't lose control. Bill Hodges, detective first class. I'm now retired.
How much have you been drinking lately?
Not enough.
Bill, retirement messes with people.
Life is supposed to be messy. I read it somewhere.
You need to find some sort of purpose.
Nouveautés, chers amis, qui seront essentiellement américaines, mais il y a une française dedans, elle s'y cache, on va y revenir. Une petite trentaine de débutantes sont apparues cet été aux États-Unis. Relevons-en cinq, à commencer par une nouvelle adaptation d'un roman de Stephen King. On vient d'entendre un extrait, Mr. Mercedes, face à face entre un flic à la retraite et un tueur psychopathe qui doit son surnom automobilistique au massacre qu'il a commis en projetant une Mercedes dans une foule. Personnellement, j'ai aimé les premiers épisodes, c'est en cours de diffusion, j'ai trouvé le personnage du flic incarné par Brendan Gleeson, classique mais touchant, juste. On est dans un drame intimiste, un portrait de flic à la retraite, rien de révolutionnaire, d'autant que le tueur est un rien poussif, mais le récit est patient, régulièrement drôle malgré la violence du crime de départ. Une bonne surprise pour moi, d'autant qu'adapter King est souvent une plaie à la télévision. Qu'en pensez-vous, chers amis ? Jean-Maxime.
Ben oui, c'est une bonne adaptation, on l'attendait depuis longtemps, parce que, on pense à Under the Dome notamment, qui était vraiment très raté. C'est une bonne adaptation, je pense, parce que pour une fois, ça n'a pas été édulcoré. J'ai pas lu le livre, mais je sais que pour Under the Dome, par exemple, voilà, il y avait un matériau qui était plutôt pas mal, et ils en ont fait n'importe quoi, ils l'ont édulcoré pour que ça puisse passer sur une grande chaîne. Là, c'est une chaîne du câble, ils peuvent se permettre des choses. Et donc,
Audience Network, AT&T, ouais.
Qui fait très peu de séries en plus, et en fait ils ont réussi à faire quelque chose de violent, vraiment de violent, de dérangeant. On parle d'inceste notamment, et on le voit un peu quand même, c'est pas un truc sous-entendu comme ça pouvait l'être par exemple dans Bates Motel, qui s'en rapproche un peu. Et puis bah, c'est David Ekeley qui s'en est occupé aussi, et bon, David Ekeley en général il fait des choses bien, il a fait Big Little Lies il y a peu de temps.
Ali McBeal dans sa jeunesse.
Voilà, il sait écrire des personnages et ça fait vachement la différence avec beaucoup d'autres adaptations qui ont précédé.
Florian ?
Je trouvais ça très sympa, c'est un bon divertissement. Après, j'ai un peu des soucis avec le flic, le perso principal, pour l'instant, je trouve pas assez nuancé. Même si, bon, on lui a mis une petite intrigue secondaire qui sort un peu de nulle part, mais pourquoi pas. Par contre, j'ai beaucoup aimé la scène d'introduction, d'ouverture, notamment avec le meurtre de masse, qui est super choquant, en fait. Alors que maintenant, à la télé, il en faut beaucoup, je trouve, pour choquer, parce qu'on a un peu tout vu. On a vu le sexe, la violence, l'inceste, mais ça a réussi à choquer quand même. Mais j'ai quand même quelques réserves, ouais, notamment sur le personnage du psychopathe qui est pas assez montré en fait pour moi. Et c'est dommage notamment quand on voit l'acteur qui a Harry Treadaway qui était génial quand même dans Penny Dreadful. Je trouve qu'il est pas assez utilisé pour l'instant.
Renan.
Ouais, c'est vraiment très très bien. Moi, j'ai un vrai problème éthique en fait avec la série. J'ai pas envie de regarder ça en ce moment. C'est-à-dire que effectivement, vous avez raison. Je trouve que la série est très très violente. Et justement, je trouve qu'il y a une légère complaisance dans la série par rapport à ce qu'elle montre et par rapport à la manière dont elle veut le montrer, parce qu'on sent qu'elle est capable de le montrer, qu'elle a la place pour le montrer. Mais je trouve que ça résonne avec l'actualité de manière un peu parasite.
C'est dérangeant, c'est sûr que
c'est parasite en fait. C'est pas de sa. Enfin, c'est pas le problème de la série. C'est que je trouve qu'il y a un problème de timing en fait à regarder ça en ce moment. Ce qui fait que moi, en fait, ça me la vision très désagréable et c'est vraiment pas agréable du tout en fait à regarder, même si effectivement c'est bien fait quoi, il y a vraiment un truc qui marche, mais vraiment je trouve qu'il y a une complaisance dans la violence et une incapacité à interagir avec son époque et à se rendre compte de est-ce que vraiment on a besoin de montrer ce genre de choses en ce moment ou pas, qui fait que je trouve ça vraiment assez désagréable à regarder.
Mister Mercedes est en cours de diffusion sur Audience Network aux États-Unis, mais n'a pas encore de diffuseur français connu. On change radicalement de genre, de ton et de public avec une série qui a fait un joli buzz cet été. Ça s'appelle The Bold Type. On suit le quotidien de trois copines new-yorkaises salariées d'un magazine féminin. Je crois qu'elle fait cette série presque l'unanimité autour de cette table. Florian, à toi la parole.
Ouais, alors The Bold Type, pour moi, c'était vraiment la révélation de cet été. Même si on n'en attendait pas grand-chose, parce qu'au final, c'est Freeform qui a fait Pretty Little Liars et des séries qui sont pas géniales au niveau scénaristique. Et puis, c'est une série qui fait du bien, en fait, parce qu'elle est en contre-pied des séries avec des anti-héros, une tonalité super dark, trop sombre, et une esthétique aussi qui est sympathique, quoi. C'est coloré, les personnages sont très vite attachants. Et en plus, il y a aussi des thématiques qui sont sympas, quoi. C'est vraiment des héroïnes qui se soutiennent. Il n'y a pas d'antagoniste aussi dans cette série. Il n'y a pas d'antagoniste principal. C'est ça qui est intéressant, en fait, d'avoir simplement une série qui est bienveillante, qui est bien pensante.
Renan ?
Ouais, alors sur le papier, au départ, c'est sucré, quoi. C'est vraiment, c'est la bonne grosse dose de sucre. Donc c'est le milieu du journalisme féminin américain avec une sorte de post Sex and the City, c'est-à-dire qu'elles sont fashion, glamour, fun et tout. Donc au départ, c'est vraiment je ricane parce que c'est une vision de la presse qui n'existe plus, ou en tout cas qui n'existe pas. Leur boss est génial, elle leur fait des câlins et tout. Moi, je cherche encore un boss comme ça. Mais en fait, ce qui est assez brillant, c'est qu'au bout de 20 minutes d'épisode, vous comprenez que la série en fait embrasse aujourd'hui. Ça parle d'aujourd'hui, ça parle. Qu'est-ce que c'est la voix de la génération d'aujourd'hui, ce qu'on appelle les fameux millennials. En fait, ça en parle très très bien parce que effectivement, et je suis complètement d'accord avec tout ce que vient de dire Florian. C'est une série d'empowerment, c'est-à-dire c'est une série qui vous dit prenez la vie en main, allez-y, avancez, mais de manière très intelligente et de manière toujours un tout petit peu détournée, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on pense que la série va se vautrer avec des sujets comme je sais pas l'orgasme féminin, le cancer du sang, on se dit voilà là, mais c'est vraiment on va tomber sur le dossier de magazine féminin, et ben tout d'un coup elle le réinvente, elle le prenne par un prisme qui est un tout petit peu différent, un peu décalé, un peu d'autodérision, et ben ça marche et ça marche même plus que ça, c'est que je pense que ça peut devenir une série culte au sens ou une série qui incarne une époque, notamment dans sa mise en scène, qui a complètement intégré tous les Snapchat, les FaceTime, les textos, tout ça, de manière très intelligente. Donc c'est vraiment plus qu'une bonne surprise, je pense que c'est une vraie révélation.
Jean-Maxime.
Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit, j'ai pas grand-chose à rajouter, c'est hyper feel-good. C'est pas du tout réaliste par contre, on l'a un peu dit, on n'y croit
pas.
Oui,
on cherche aussi des rédactions qui ressemblent à ça, mais il doit y en avoir. Moi je suis très bien à Télérama, si vous m'écoutez, je suis très très bien, c'est super.
On n'y croit pas, mais en même temps...
Non, je déconne.
On n'y croit pas, mais ça fait vraiment plaisir de voir ça, c'est un truc positif effectivement, il y en a tellement peu en ce moment, à côté de Mister Mercedes par exemple.
Est-ce qu'il faut dépasser peut-être une sensation de post-gossip girlish ou de trucs où en fait il y a de la musique pop trop fort derrière et où moi, il y a un truc qui m'a inquiété. Alors, je vous arrête tout de suite si vous me dites que je suis là pour casser l'ambiance. J'ai beaucoup aimé aussi, mais j'étais très inquiet de me dire, oh là là, ça va être le dossier de la semaine, et puis ça va être, en gros, presque ce qu'il faudrait faire en cours de sciences nat, quoi. J'exagère, mais alors, évidemment, on a un problème de représentativité et de discussion et de mise en scène de la sexualité, etc. Donc, on va y aller. Allez, avec les sujets comme ça qu'on vous aligne derrière les uns derrière les autres, comme t'as dit Renan, on le dépasse, ça, le côté un peu catalogue de le progressisme télévisuel, si j'ose dire.
Mais parce que c'est très bien écrit, en fait. C'est parce qu'elles sont toutes caricaturales. Donc, il y a celle qui est un peu godiche, il y a celle qui est un peu rêveuse, et puis il y a celle qui, au contraire, y va complètement. Et puis, en fait.
Ça reste des héroïnes de télévision.
Mais en fait, tout d'un coup, elles tournent. C'est-à-dire que tout d'un coup, elles forment un vrai club, et il y a tout un truc sur la manière, sur l'amitié. C'est aussi une série sur l'amitié que je trouve assez, vraiment, au départ, on se prend une grosse dose de glucose, et puis après, on trouve que finalement, c'est plus malin que ça et ça dit des choses qu'on a vraiment besoin d'entendre en ce moment.
The Bold Type est diffusé sur Freeform aux États-Unis, mais son diffuseur français n'est pas encore connu. On va quand même parler de séries visibles légalement chez nous, à commencer par Friends from College, lancée sur Netflix au début des grandes vacances, une comédie sur une bande de potes quasi quarantenaires qui ne se lâchent plus depuis la fac et s'enlise dans une amitié vérolée. Une série qui n'a pas fait l'unanimité, mais je crois, Jean-Maxime, que toi, tu as aimé.
Oui, mais j'ai pas aimé tout de suite. En fait, les deux premiers épisodes m'avaient pas tellement plu, mais c'est Netflix, c'est le piège, on continue même quand ça nous plaît pas trop. Donc j'ai continué, j'ai vu les 8. C'est 8 épisodes de 30 minutes, donc ça va très vite. Et en fait, oui, au début, on a l'impression d'arriver dans une soirée où on n'a pas été invité, où les gens sont déjà bourrés, on comprend rien et c'est pas drôle, on est gêné. Là, en fait, au bout du troisième épisode, qui est vraiment très sympa, on commence à s'attacher aux personnages, à les comprendre un peu mieux, à comprendre l'humour aussi, qui est quand même assez spécial. On n'est pas habitué à ça. Je trouve que c'est un humour assez proche des comédies anglaises, en fait. C'est très doux, amer, et donc on s'attache à eux et petit à petit on les adore, en fait, à part peut-être le héros, le personnage joué par Keegan Michael Key, qui est insupportable, mais tous les autres, notamment Cobie Smulders, qu'on n'avait pas trop vu depuis How I Met Your Mother, qui est super, qui joue à peu près la même chose, mais elle le fait tellement bien que...
Oui, ça pourrait presque être une suite d'How I Met Your Mother, hein, cette histoire, enfin, en tirant un petit peu, pas dans la narration, mais dans les personnages. On est dans New York, on est dans un milieu social à peu près comparable, quoi qu'ils ont fait une super fac et tout, donc ils sont plutôt, disons, classe capitale culturelle supérieure. Renan, toi, je crois que tu as bien aimé.
Ouais, moi, je trouve que c'est vraiment une très belle série. On avait les Millennials, donc avec The Bold Type, là on a une nouvelle génération, j'ai découvert ça, les Xennials, c'est-à-dire ces gens qui commencent à avoir 40 ans et qui en font en fait une grosse déprime. C'est pas ça, ça parle de ça, hein, Friends from College, c'est l'histoire d'un groupe de gens qui entament une deuxième partie de leur vie, qui font une grosse déprime et qui pensent que finalement la seule chose qui va les maintenir jeunes, c'est leur amitié de jeunesse, sauf qu'en fait ils ont quasiment plus rien à se dire, ils s'aiment pas beaucoup, en plus ils se trompent souvent l'un l'autre,
parce qu'il y a des coucheries aussi,
y a des
ils sont pas que friends, hein, ils sont girlfriend et tout ce qui va avec,
ils sont tout ce qu'ils veulent. Et et c'est ça qui est assez malin. C'est écrit donc par Francesca Del Banco, qui est donc la femme de Nicholas Stoller. Nicholas Stoller, c'est un réalisateur de comédie américaine qui avait fait un chef-d'œuvre qui s'appelle 5 ans de réflexion. Et en fait.
Et qui est producteur de la série.
Et qui est producteur et réalisateur de la série. Et en fait, on retrouve ce ton-là chez Stoller, et donc ici écrit par sa femme. C'est-à-dire que vraiment un mélange à la fois de mélancolie, de personnages qui sont en permanence écrasés par tout ce qui leur arrive, et en même temps une forme de légèreté à rire de ça. Et moi, je suis pas d'accord. Je trouve que Keegan Michael Key, qui est un acteur comique américain qu'on voit pas souvent, notamment en France, et qui est un génie en fait, qui est une sorte de génie comique, parce qu'on a envie de le tarter pendant toute la série, et en même temps
très fort en grimace.
Ben oui, mais il a un truc. C'est le type qui en fait. On connaît ça. On connaît ce type qui en fait trop dans les soirées, qui crie trop fort, qui fait des blagues pour rire tout le monde parce qu'il a peur du silence. Et ça, vraiment, je les trouve. Moi, je les trouve pas insupportables. Je les trouve hyper émouvants parce que c'est des ratés en fait.
Florian, t'en as pensé quoi?
C'était fascinant parce que j'ai détesté et en même temps j'ai pas totalement détesté en fait, parce que pour moi en fait bon, c'était un peu un You're the Worst mais qui s'est planté en cours de route, parce qu'ils ont voulu faire des personnages qui sont pas très sympathiques de prime abord et qui finalement dans Friends from College ils sont tout simplement pas sympathiques en fait. C'est très dur je trouve d'éprouver de la sympathie pour eux parce que c'est, ils font que des mauvaises choses, c'est des mauvais amis, c'est des mauvais amants, c'est et pour moi, en fait, il y a un côté déprimant, en fait, de voir ça, de personnes qui se forcent à rester ensemble, même si, ben, elles ont plus rien en commun et ils se font que des coups bas, quoi. C'est vraiment
tu
des mauvaises personnes.
Je n'en reparlerai à 40 ans.
Ouais, alors, j'allais dire, est-ce que c'est parce que je deviens vieux que je suis un sale con? Mais moi, je les ai trouvés pas si désagréables, les personnages de cette série-là. Non, moi, j'ai bien aimé. Au début, j'ai trouvé ça peut-être un peu convenu, mais au fur et à mesure, je me suis laissé aller. Alors, j'ai un gros problème avec une scène où il y a une pub pour un fast-food que je trouve assez honteuse. Mais mis à part ça, et alors évidemment, c'est assez caricatural quand on y pense, les séquences, le tour du quand ils vont faire la route des vins, etc. C'est des choses assez convenues quand même. Mais en fait, il y a un tel abattage, il y a une telle qualité de l'interprétation que finalement, et puis alors moi, je le connaissais, je regardais les sketchs de Key & Peele sur internet, etc. Donc j'avais déjà de l'affection pour lui. Kobe Smulders, voilà, moi, j'ai rien raté d'How I Met Your Mother à l'époque. Donc j'avais de toute façon un a priori positif. Ceci étant dit, on peut difficilement parler d'une grande comédie, mais j'aime bien ce côté amitié vérolée. J'aime bien que ça questionne finalement jusqu'à quel point il faut s'accrocher aux gens qu'on pense être les gens essentiels dans notre existence et qui parfois ne sont plus compatibles avec nous-mêmes, voire nous rendre encore plus cons qu'on l'est. Et ça, c'est vrai que c'est très intéressant. Friends from College, donc, c'est sur Netflix. Et donc, vous faire votre propre opinion, puisque celle-là, vous pouvez la voir. Refermant cette review de l'été américain avec une autre série à voir bientôt chez nous, The Sinner, prévue sur Altice Studio. Il n'y a pas encore de date, si je dis pas de bêtises. Mini-série sur une mère de famille incarnée par Jessica Biel, assassine subitement un inconnu. Cette mère de famille, pourquoi, que cache-t-elle? The Sinner, qui est adapté d'un roman de l'allemande Petra Amsvar, que personnellement je ne connaissais pas du tout avant cette série, colle au plus près du ressenti de cette héroïne trouble, à la fois émouvante et inquiétante selon moi, criminelle et victime, dont on va découvrir le passé. Biel est très bien. Et le flic qui mène l'enquête, joué par Bill Pullman, fatigué à point, avec d'ailleurs, il y a un point commun avec le héros de Mr. Mercedes, alors il y a quelques kilos de différence, mais c'est la barbe pourrie et les cheveux longs, enfin c'est à peu près ça. Bill Pullman, donc, fatigué à point, et certes, rien stéréotypé, barbe et mèche qui vont avec, mais solide, la narration patiente, pesante, se marie à merveille avec une mise en scène esthétique sans être esthétisante, élégante, qui parvient à multiplier les effets, notamment le pire d'entre eux, le flashback, qui revient régulièrement sans nous assommer. Comme tu le disais assez justement, Jean-Maxime, je vais te citer sur les réseaux sociaux. Ça ressemble de loin à un mélange entre The Night Of et The Affair. Comparaison au niveau du ressenti essentiellement pour ce qui me concerne. Chers amis, qu'en avez-vous pensé de The Sinner? Jean-Maxime,
je réagis à ma propre phrase pour dire que c'est dans la construction en fait que ça ressemble beaucoup à ces séries. Il y a un point de départ en fait très fort, très très dur, et ensuite c'est une descente aux enfers pour tous les personnages qui sont liés de près ou de loin à cette histoire. C'est en ça que ça y ressemble, et c'est une série tout le temps surprenante parce qu'on sait vraiment pas où on va. On a l'impression de tout savoir à partir du premier épisode. On se dit qu'est-ce qu'ils vont nous raconter après pendant 7 autres épisodes, et en fait on découvre assez vite que ce qu'on croyait être la vérité ne l'est pas du tout, que les personnages sont tous très troubles. Et tu l'as dit, mais j'insiste là-dessus, Jessica Biel est vraiment très bien, ce qu'on n'attendait pas forcément d'elle. Elle est productrice d'ailleurs en plus. C'est un rôle qui lui va super bien et globalement, le casting est très bon.
Florian.
Alors, j'ai beaucoup aimé The Sinner, mais j'ai toujours le souci en fait avec le flic qui est stéréotypé, quoi. En fait, c'est pareil que Mr. Mercedes. Pour moi, c'est ça le gros point noir. Mais ça.
Lui aussi, il a des galères de couple. D'ailleurs, enfin, Mr. Mercedes, non, ouais. Mais on parlait. Ouais, voilà, lui aussi, il est dans un divorce. Enfin, il essaye de faire son couple.
C'est ça. Mais c'est aussi, c'est le seul trope en fait qu'ils mettent pour le nuancer à chaque fois. Mais je trouve que c'est un peu. On l'a vu partout. C'est dommage. Après, pour Jessica Biel, pareil, moi je l'ai trouvée bluffante, mais après je me souvenais d'elle dans 7 à la maison, donc en même temps il y avait de la marge d'amélioration. Mais sinon, ouais, c'est une série vraiment, on ne sait pas où elle va, et à la fin de chaque épisode, je suis laissé sur le cul parce que je me dis, mais quelle direction va prendre en fait l'épisode suivant ? Un côté, on se dit que ça va partir dans un trip religieux, peut-être secte ou un truc comme ça.
Oui, parce qu'on apprend au fur et à mesure qu'elle a eu une enfance un tout petit peu compliquée, hein, cette jeune fille. Elle avait des parents pas très faciles, surtout sa mère d'ailleurs. D'ailleurs, son père, on ne sait pas trop non plus ce qui se passait avec son père, enfin, tout ça est extrêmement trouble, et ça pourrait être totalement caricatural d'ailleurs, et ça passe très bien, enfin, en tout cas c'est mon point de vue.
Et ça me fait penser un peu à Carrie, moi, de Stephen King, en fait. Petit à petit, plus ça se déroule, plus le développement du personnage, ça me fait penser à ça, en fait.
Renan ?
Oui, c'est pareil, c'est carré, c'est bien fait, ça n'invente quand même pas grand-chose, moi j'ai l'impression. Y a un truc qui me dérange un tout petit peu avec en fait le côté performance, c'est-à-dire qu'on a dit Jessica Biel est vachement bien, mais on sent qu'elle veut être vachement bien, hein, c'est-à-dire que elle veut son Golden Globes, elle y va, quoi. Je trouve qu'il y a un truc un peu forcé, tout est un peu tiré, tout est un peu étiré, un peu trop glauque, un peu trop violent. C'est-à-dire, je trouve que ça manque un tout petit peu de fraîcheur.
Ça se regarde un petit peu.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a
Mais ça se laisse regarder.
Voilà, je dirais, ça se regarde un petit peu, ça se laisse regarder, c'est ça. C'est en fait, moi, ce qui je me dis, ok, donc ils vont aller au bout d'une saison 1, mais je vois pas très bien où ils peuvent aller ensuite vers une saison 2, vers une...
C'est censé être anthologique, donc ce sera une toute autre histoire, voilà, un autre péché.
Donc en fait, ils ont trouvé encore une fois une espèce de manière de pas faire de la série, c'est-à-dire on va raconter une histoire et puis au moment où on va devoir la continuer, et ben on va faire autre chose.
Mais il y a quand même des processus d'écriture sérielle, hein. Il y a des cliffhangers, ouais. Il y a des, enfin, ça se regarde comme une mini-série d'ailleurs.
Mais je trouve que les enjeux sont pas suffisamment forts pour un univers de série où on a envie de se dire j'ai envie de passer 5 ans avec eux. Là, on verra déjà à la fin si on a envie de rester avec eux.
The Sinner sera donc sur Altice Studio. C'est une belle prise pour la nouvelle chaîne de SFR. On en reparlera peut-être. Terminons ce retour en arrière avec un mot de la seule nouveauté française marquante de l'été, je crois. Le feuilleton quotidien de TF1, Demain nous appartient. Si, si, on va en parler. Lancé en juillet. On parle assez peu de ce genre de série dont un épisode est Jarrette, mais faisons une exception. Jean-Maxime, je sais que tu y as jeté un coup d'œil. J'y ai jeté un coup d'œil aussi. Je ne sais pas si, chers camarades, vous y avez jeté un coup d'œil aussi. Qu'en pensez, on va parler aussi évidemment de ce que ça sous-entend cette série, mais d'abord en tant que pure série, en tant que critique, qu'en dire ?
Bah, j'ai vu les 3 premiers épisodes, j'ai pas repris depuis parce que ça m'avait pas tellement emballé.
T'as pas vu les 792 suivants ?
Non, encore. J'espère qu'ils n'iront pas jusque-là, mais bon. En fait, le gros problème de la série, c'est quand même Ingrid Chauvin, je pense, qui est une très très mauvaise actrice, et c'est un peu dommage pour une série comme ça d'avoir une héroïne. Alors ça rappelle les sagas de l'été qu'on a vues pendant des années, mais le succès plus belle la vie, pour comparer avec un autre feuilleton quotidien, c'est plein de personnages, il n'y a pas de héros, ils sont tous assez proches du quotidien des Français. Là, on n'est pas dans le quotidien des Français du tout, et surtout pas avec le personnage d'Ingrid Chauvin. Donc ils ont un peu raté leur coup au début, mais en même temps, je me dis que ça peut s'améliorer, on peut s'attacher au personnage, il peut faire venir de nouvelles personnes en cours de route.
Et ça se tient niveau audience, hein, je ne dis pas de bêtises.
Ils c'est ni pas, un flop, ouais. Ni un succès, ça reste à l'antenne pour l'instant, donc ils ont quand même envie, c'est bien que TF1 poursuive et essaye de faire en sorte que ça marche, parce que Plus belle la vie, ça a mis du temps.
D'un point de vue critique, Florian, Renan, un mot à dire ou je prends la main et je tape dessus ?
C'est
Florian.
Mauvais. C'est très mauvais. Ah, c'est vraiment mauvais. En fait, ouais, j'ai dû me forcer en fait, à regarder le pilote alors que ça dure que 20 minutes. Hein. Mais ouais, en fait, c'est tout qui est attendu. Ça essaye de copier en fait sur le modèle soap opéra américain, j'ai l'impression, avec des morts qui reviennent, des trucs, enfin, une échouée sur la plage, comme ça. Enfin, c'est très... On l'a déjà vu et je vois pas pourquoi en fait on essaye maintenant de faire ça quand on est en 2017 et je pense que ça devrait s'enterrer en fait comme genre.
Moi, je suis pas complètement d'accord parce que c'est un genre en fait très particulier, ce qu'on appelle le daytime soap, c'est-à-dire c'est diffusé quotidiennement avec une écriture. C'est en Angleterre, c'est EastEnders par exemple, c'est ces grands monuments-là. Donc en fait, ça prend ces règles-là, c'est-à-dire qu'il faut qu'il se passe toujours quelque chose dans un espace clos avec des personnages qui tournent en rond. Donc ça, pour le coup, ça marche, quoi. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, il y a une ville, il y a des personnages, il y a des familles, il y a des intrigues, et ça va s'écrire et continuer à l'infini. Donc ils font le job. La question, c'est est-ce que déjà nous autour de la table, on est la cible ? J'ai pas l'impression.
Je ne crois pas.
Et surtout, alors à la cible en question, effectivement, là, je suis d'accord avec Jean-Maxime. Il y a un problème d'acteur. On a parlé de Ingrid Chauvin. Moi, je vais en mettre une couche sur Laurie Pester, qui est donc
Il y en a d'autres. Hein. Moi, je connais pas leur nom, donc je vais pas taper dessus, mais il y en a d'autres. Hein.
Moi, ce qui me fascinait dans les premiers épisodes, c'est qu'elle regardait la caméra. C'est-à-dire qu'à un moment, il y avait des moments, je disais, mais regarde pas la caméra, ma chérie, on est en train de regarder. Enfin voilà, il y avait des petits problèmes de production comme ça. Après. Franchement, je trouve que c'est un pari osé de TF1. Je trouve qu'on est un peu snob comme ça.
Il y a un enjeu économique et industriel.
Ouais, mais on est un peu snob de regarder ça de haut parce qu'on n'est vraiment pas la cible. Et il faut savoir si effectivement, et le fait que ce soit ni un flop ni un succès, je pense que ça dit aussi que à la fois c'est une bonne idée, mais c'est pas le bon sujet. C'est-à-dire que les gens ont envie de ce format-là, mais n'ont pas envie de voir ça. Donc il y a une espèce de d'ambivalence.
Oui, parce que TF1 a fait un mélange entre le format des time soap et quelque chose qui est plus proche de ce qu'ils faisaient très bien, ce qui est la saga d'été.
Exactement.
Et ils ont mais en même temps le côté polar tend l'intrigue, mais éloigne le téléspectateur puisque c'est plus du quotidien. Donc c'est à la fois une bonne idée pour se dire que le public de TF1 va être fidélisé et une très mauvaise idée parce que ce qui plaît dans Plus belle la vie, c'est pas forcément qui a tué qui et qui couche avec qui, c'est au contraire ce sentiment de regarder par la fenêtre des gens, quoi. Voilà.
Et Plus belle la vie, on s'en souvient, au début c'était une catastrophe parce qu'ils avaient pas ces éléments d'intrigue très forts. Alors sauf que eux, ils partent tout de suite très très fort avec une sœur cachée qui revient et des gens qui meurent. Et voilà. Et donc je pense qu'en fait il y a un problème de quotidien, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à comprendre qui sont ces gens. Donc peut-être que sur la durée, tout le monde va trouver ça très très bien. Pour l'instant, effectivement, c'est un peu une tannée à regarder.
Demain nous appartient est toujours sur TF1, le soir un peu avant 19h30. Allez, nous, on monte dans la DeLorean, direction demain. Pure innovation. See, we can turn a dime into a dollar just like that. Hush, not child. I want to learn how to make movies. And don't... If they can sell that in Europe, it's not going to be lost before we can make it sell it here. How do you know? It's America, right? Just move on up. There's going to be an opportunity coming your way. Once in a lifetime thing. So what am I looking at? Your future. When do we start? On passe donc en mode preview, comme on dit en beau français, pour cette dernière partie de l'épisode 1 de la saison 2 de Un épisode et j'arrête. Ça fait beaucoup d'épisodes de saison et tout, mais on se comprend. Avec 5 séries attendues à la rentrée américaine qui débutent ces jours-ci, une seule a été vue par les critiques assis à mes côtés. Pour les 4 autres, nous ne ferons que des suppositions. Ça fait partie du jeu. On attaque donc, on vient d'entendre un son, avec The Deuce. The Deuce, la nouvelle série du dieu David Simon, créateur de The Wire et Trémé, qui cette fois-ci se penche toujours pour HBO sur la naissance de l'industrie du porno à New York dans les années 70. On reparlera longuement de The Deuce et de David Simon dans le prochain podcast. Faisons donc vite cette semaine. Nouveau chef-d'œuvre en vue ou déception, chers amis. Renan.
Chef-d'œuvre, on va peut-être pas s'emballer, mais gros morceau. Hein. C'est-à-dire que vraiment David Simon, il fait pas les choses à moitié. C'est très impressionnant, très très bien écrit, évidemment, très bien fait. Et en fait, petit à petit, on va arriver à s'attacher à cette histoire, mais au départ, il y a un peu l'impression de l'exposé du bon élève. C'est-à-dire que le pilote qui est très long, on a vraiment un peu le même défaut qu'avait Vinyl, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il met tout sur la table et il vous en met plein la vue en vous disant, voilà, il va y avoir ci, ça, ça. Et puis petit à petit, au fur et à mesure des quelques épisodes que j'ai pu voir, en fait, se dégage un truc qui est essentiel chez David Simon, c'est l'humain. C'est-à-dire que ça devient une série profondément humaine, et notamment avec Maggie Gyllenhaal, et je prends les paris qu'elle aura le Golden Globes de la meilleure actrice dans une série dramatique avec
qui
sa prestation.
Prostituée indépendante, donc qui n'a pas de
et qui est une sorte de businesswoman tout d'un coup, et c'est un personnage très très fort. Il y a James Franco, il y a une double ration de James Franco.
Oui, ça pour moi c'est le seul truc que je comprends pas à quoi ça sert, la double ration de James Franco.
Il a une pantstache, donc c'est déjà c'est rigolo. Il y a un truc, en fait je trouve que le sujet il est graveleux parce que c'est comment le porno va devenir mainstream dans les années 70-80 à New York, donc le sujet est vraiment graveleux. Il n'évite pas le graveleux, il n'évite pas le côté problématique et notamment misogyne de son sujet, mais il le traite, il s'affronte au problème. Donc on n'est pas non plus dans la série détente, on est quand même dans un gros morceau et dans de la série auteur-auteur.
D'autant que c'est extrêmement choral, donc oui. Il faut s'accrocher parce que ça part dans tous les sens.
Mais vraiment, c'est impressionnant, c'est le mot.
Jean-Maxime.
Moi je suis d'accord avec Renan, après je trouve que le pilote est beaucoup trop long et c'est devenu une norme et c'est un peu chiant, 1h25. Et en même temps, il y a tellement de personnages, on les voit défiler les uns après les autres, on les revoit pas forcément ensuite. C'est vraiment une série qui va se regarder presque par bloc, en fait. Si on prend les épisodes un par un, c'est pas forcément très réussi, mais l'ensemble devrait être intéressant. Et Maggie Gyllenhaal, effectivement, est géniale. Elle va piquer le Golden Globe à Jessica Biel, c'est sûr.
Florian.
Ouais, c'était super sympa. J'ai vu que le pilote, mais effectivement, ouais, je suis d'accord sur la longueur. C'était beaucoup trop long. 1h25, ça devrait pas devenir une habitude. Mais, bizarrement, je suis rentré plus facilement que dans Vinyl, qui était un peu plus lourd, je trouvais, au niveau de la présentation. C'est plus contemplatif, en fait, The Deuce. On voit des personnages, on les découvre petit à petit par morceaux. Et c'est très intéressant pour l'instant.
Moi, j'ai retrouvé dans The Deuce quelque chose que j'adorais dans Trémé, qui est un peu ma série préférée au sens, c'est celle qui me touche le plus que quand je revois Trémé, moi, ça me bouleverse. C'est ce côté naturaliste, c'est ce côté on est avec les gens, dans la ville. Il y a d'ailleurs une prise de son affolante dans cette série. On entend tous les bruits de la ville, ça s'écoute au casque, quoi. C'est un truc assez dingue. Et il y a, alors Dickens est directement cité dans les épisodes.
C'est Zola là, hein, vraiment.
Il y a du Zola et du Dickens, mais c'est vrai que il y a ce côté à la fois tout à fait réaliste. C'est David Simon, l'historien, qui vient là, alors qu'on le connaissait très bien journaliste. Mais depuis Show Me Your Hero, sa série d'avant, visiblement, il s'est tourné vers le passé et finalement profondément romanesque avec tous ces personnages. Et ce mélange-là, pour moi, tient vraiment la route. Par contre, mettez des sous-titres. Moi, la première fois que je l'ai vu, c'était sans sous-titres. Hein. C'est comme ça que parfois on nous envoie les séries, les journalistes. C'est extrêmement ardu. Et puis, quelle virtuosité d'écriture des dialogues. Hein. Citer Georges Pelecanos, hein, quand même. C'est co-créé par Georges Pelecanos, qui était déjà sur The Wire et Tremé, qui est romancier, et David Simon. Bref, c'est de la série plus. On peut pas dire le contraire. Mais encore une fois, ça se regarde pas les doigts de pied en éventail. On sent autre chose. Je crois que c'est une série dans laquelle il faut se laisser immerger. On en reparlera, évidemment, très vite, donc la semaine prochaine, de The Deuce et du travail de David Simon. Ça sera donc The Deuce le 10 septembre sur HBO et le 11 sur OCS City en France pour la diffusion française. Soyons méthodiques, suivons l'ordre des diffusions. Deux semaines après The Deuce, un autre vaisseau sériel entrera dans l'atmosphère américain et dans le nôtre, Star Trek Discovery, retour de la vengeance de la plus célèbre franchise de space opéra à voir sur Netflix chez nous le 25 septembre. Son intrigue se déroule 10 ans avant la série d'origine, vous suivez, donc avant celle des années 60, à l'heure de la guerre entre les Klingons et la Fédération des Planètes Unies, pour simplifier les choses. Qu'en espérer, qu'en redouter, chers amis? Je ne sais pas s'il y a des trekkies autour de la table, mais quoi qu'il en soit, c'est un événement, qu'on soit trekkie ou pas. Renan.
Oui, c'est un événement, sûrement, mais pas chez moi, ce qui est quand même problématique. Ça va plaire aux gens qui attendent ça. Moi, bizarrement, j'attends plus la série de Seth MacFarlane,
The Orville,
qui serait une sorte de parodie de Star Trek.
Arrive peu de temps avant.
Et je suis plus curieux de me dire qu'est-ce que Seth MacFarlane, avec son humour un peu trash, va faire de ça, que ce Star Trek qui peut être une très bonne surprise, très carré, très bien fait, mais qui, en l'état, ne pourrait pas dépasser le film de Robert Wise, qui est quand même un chef-d'œuvre. La série d'origine, elle a très très mal vieilli, en tout cas par rapport aux standards d'aujourd'hui, donc on va avoir une sorte de réactualisation. Alors en plus, c'est un reboot de je sais pas quoi, c'est trop compliqué pour moi.
Et Brian Fuller, qui était donc au départ sur le projet, a claqué la porte, ce qui n'est pas forcément très bon signe. Jean-Maxime, tu la sens comment, toi ?
Je ne suis pas du tout intéressé non plus, j'y jetterai un œil, mais je ne connais rien à l'univers de Star Trek, à part les films de J.J. Abrams.
On n'a que des potes, on va avoir des millions de mecs qui vont nous voir là, on est foutus, je vous le dis tout de suite.
Mais ils ont raison d'aimer Star Trek, hein, c'est incroyable.
Moi, j'aurais aimé que ce soit à la limite un dérivé des films de J.J. Abrams, parce que là, au moins, on pouvait s'accrocher à quelque chose de récent, et voilà. Là, le reboot d'un truc qu'on n'a pas vu.
Vu que ça se passe avant la série d'origine, en gros, on peut prendre ça sans rien connaître. A priori, ça se regarde même pour les débutants. T'as pas l'air d'être convaincu, non?
Non, parce qu'à mon avis, ils vont jouer avec il y a une mythologie qui est très très forte. Hein. On parlait de Game of Thrones en début d'émission. Vraiment Star Trek, il y a une communauté qui est très très forte. Et la série va essayer d'aller chercher ces gens-là aussi. Donc il va y avoir des clins d'œil, des trucs. Moi, je vais être largué. Hein.
Ça va être compliqué.
Un truc qui m'a fait peur justement, c'est que les créateurs ont déjà dit qu'ils voulaient s'inspirer de Game of Thrones dans leur façon d'écrire la série, avec ce truc des morts, tout le monde peut mourir à n'importe quel moment, etc. Je me dis, encore une série comme
l'héroïne ça. L'héroïne est jouée par une fille de The Walking Dead.
Hein. En plus, ouais.
Ça en dit long.
Il y a quand même de gros signaux pour tous les fans de ces deux séries-là.
Florian,
au vu de la bande-annonce, ça a l'air pas mal. On dirait qu'il y a quand même un certain budget et de la SF, en fait, Space Opera, ça se fait pas trop depuis ces dernières années. On a eu quoi, The Expanse sur Sci-Fi, qui est pas mauvais, mais là, il y a quand même un budget un peu plus conséquent. Donc, moi, je pense que ça peut être pas mal. Après, c'est vrai que l'impatience est pas trop là, quoi.
Faut qu'il y ait du fond. Alors, le problème, c'est que moi, je vais taper le point Battlestar Galactica, mais j'attends juste une série qui ait cette profondeur-là. Et parce que moi, le Space Opera, je m'en tape, mais d'une force. Et Battlestar Galactica, j'ai adoré. Donc, j'espère qu'il y aura peut-être ça. Il y a qu'une chose, moi, que j'attends vraiment. Vraiment, je suis pas du tout un spécialiste de Star Trek. Je sais juste l'importance du sous-texte géopolitique, si j'ose dire. Et dans l'Amérique d'aujourd'hui, dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, est-ce que Star Trek sera à nouveau un message de paix et de cohabitation entre les différentes espèces, en l'occurrence là, et donc les différents êtres humains, pour parler de la métaphore? Ça m'intéresse. Je voudrais savoir quelle image du monde cette série va nous renvoyer. Ça sera pour moi le seul véritable enjeu. Et puis sinon, pas trop de fond vert dégueulasse. Et si possible, pas une biche en particulier qui se baladerait dans un coin. Ça serait problématique. Bref, on verra à quoi ça ressemble. Ce nouveau Star Trek, ce sera le 24 septembre sur CBS All Access aux États-Unis et la veille du lancement sur CBS tout court, donc ça sera sur Netflix le 25, autant pour moi, le 24 aux États-Unis sur CBS All Access, donc la plateforme de CBS. Et ça, c'est la veille du lancement sur CBS tout court, la chaîne de, moi, transition était plus compliquée, hein, de The Young Sheldon. On va en parler, le préquel de The Big Bang Theory sur l'enfance de Sheldon Cooper au Texas. Une bonne idée, là aussi, ou une catastrophe programmée, parce que, mon Dieu, quelle horreur, cessons de faire des préquels, des sequels et des spin-offs à toutes les sauces.
C'est une bonne idée, je trouve, sur le papier. Moi, j'ai arrêté Big Bang Theory il y a longtemps, mais c'est vrai que s'il y a bien un truc à faire, c'est ça, quoi, parler de Sheldon un peu plus, puisque c'est l'attrait principal de la série originale. Après, la crainte que j'ai, c'est que ce soit une série qu'on a déjà vue 1000 fois dans L'Esprit de Malcolm, dans The Middle. Enfin, il y en a beaucoup des séries comme ça, et qu'elle n'apportera rien de nouveau, à part ce personnage qu'on aime beaucoup et dont on va découvrir certainement des choses passionnantes. Mais enfin, le petit acteur est top. D'ailleurs, on l'avait vu dans Big Little Lies. Après, voilà, je pense que ça va marcher, mais ça va pas être très marquant.
Ouais, je suis quand même curieux de voir ce que ça va donner, étant donné que déjà le format il change. En fait, il n'y aura plus de rire enregistré, tout ça. C'est un format plus contemporain, en fait, de comédie.
Ouais, on est plus près de Modern Family, de ce genre de format-là, ouais. Mm.
C'est ça. Et je pense que ça va peut-être mieux se laisser regarder pour un public qui n'est pas fan de Big Bang Theory à la base, dont je fais partie. Mais oui, non, je pense que ça l'a pas mal. Après, c'est vrai, ça peut être un peu trop convenu avec les dernières comédies comme Speechless l'année dernière, un peu les trucs comme ça avec l'enfant, peut-être qui se démarque des autres enfants de son école et qui essaye de s'adapter. Mais c'est toujours sympa quand même.
Bah ouais, on sent que Chuck Lorre, qui était quand même le pro de la sitcom, enfin qui continue et qui est un des rares à continuer à tourner en public, et à
Mon oncle Charlie,
voilà, et ben
Mom, plus récemment,
il essaye petit à petit il passe de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il a pas le choix, et donc Young Sheldon, moi j'y crois pas du tout, déjà un parce que The Big Bang Theory n'est pas fini, donc qu'est-ce que ça va être les doubles rations, ils vont nous faire un spin-off, ils vont nous faire un, il y a un truc qui marche pas, et puis je trouve que c'est pas une très bonne idée de comédie, parce que finalement le personnage de Sheldon, il est déjà très 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 épuisé dans The Big Bang Theory, pour continuer à la regarder. Donc vraiment, c'est un personnage qu'on a presque plus envie de voir évoluer aujourd'hui, notamment dans les dernières saisons, sa relation amoureuse, ce qui fait que de revenir à l'origine de qui est ce personnage, bah finalement tout ça on le sait déjà, on sait déjà qui est sa grand-mère, on sait déjà qui est sa mère, tout. Donc en gros ils vont nous raconter ce qu'on sait déjà. Je trouve ça pas très très original comme idée.
Oui, c'est vrai que c'est un peu risqué. Ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement ce que peut faire Chuck Lorre sur ce format-là, mais c'est vraiment une réflexion de critique de série. Ça n'intéresse pas forcément le grand public. Non, ce qui va être le véritable enjeu pour moi, c'est la famille, c'est-à-dire à quel point ils vont trouver des ressorts comiques pour nous faire une énième série de famille, c'est-à-dire les scènes à table, etc. Et finalement, comment cette série-là va pouvoir proposer autre chose. On parlait de Modern Family, mais il y en a plein d'autres, The Middle et d'autres, qui sont déjà sur des formats semblables. Où est-ce que ça va être simplement un aspirateur à fans de Big Bang Theory, et puis s'ils en prennent les deux tiers des fans de Big Bang Theory, ça fera assez d'audience pour tenir. Hein.
Et Jean-Maxime le disait très bien, en fait ça existe déjà, ça s'appelait Malcolm en fait, l'histoire d'un gamin surdoué dans une famille qui ne l'est pas.
C'est pas faux.
Donc bon, ce sera un mauvais Malcolm.
The Young Sheldon sera diffusé sur le groupe Canal+ en France, reste à savoir quand. Quatrième et avant-dernière nouveauté attendue lors de cette rentrée US. Le même soir que le petit Sheldon, l'histoire d'un autre jeune homme un peu spécial, The Good Doctor sur ABC. C'est une adaptation d'un format coréen par David Shore, le créateur de House, et Daniel Dae-kim, l'acteur de Lost, d'origine coréenne. Freddie Highmore, fort bon acteur qui aima d'abord le chocolat de Charlie, puis la taxidermie et les rideaux de douche dans Bates Motel, y incarne un jeune chirurgien autiste. Personnellement, je sens le pleurnichage et les bons sentiments au kilo. Mais Jean-Maxime, je crois que tu as un meilleur pressentiment et ça... Déjà, ça fait un buzz, hein, comme on dit.
Ouais, déjà, le pleurnichage, j'ai rien contre. C'est bien, il en faut aussi des séries
quand
qui
il
pleurer.
Est bon.
Quand il est bon.
This Is Us, par exemple.
Voilà, on a eu la preuve l'année dernière que This Is Us pouvait le faire très bien. Et justement, je trouve, dans les premières images qu'on a pu voir, qu'il y a quelque chose à la This Is Us, notamment dans les flashbacks. Il y a visiblement des flashbacks qui émaillent le pilote, peut-être au-delà aussi. Et ça a l'air assez émouvant, cette histoire de fratrie, visiblement. Bon, donc j'ai un bon pressentiment. Et effectivement, ça buzz. Sur Facebook, c'est la série pour l'instant qui marche le mieux et elle n'a pas encore commencé. Donc ça a l'air de prendre le même chemin que This Is Us. Je pense que ça va cartonner.
Un petit avis, Florian ?
Moi, je ne suis pas très, très enthousiaste pour l'instant, même si le trailer fait, j'avoue, envie. Pour moi, c'est encore une série en fait, sur un génie marginal qui veut s'intégrer dans la société. Et on l'a déjà vu, en fait, c'est à chaque fois le même type de série un peu procédurière. Avec, par exemple, on l'a vu avec eux, c'était quoi ? C'était un peu Doctor House, c'était un peu Pure Genius, Scorpion. Mais on l'a vu partout, et c'est jusque-là. Ce qui va rendre le truc un peu plus attrayant, c'est l'acteur qu'ils ont choisi, en fait. C'est Freddie Highmore, qui est un très bon acteur, et je pense que c'est juste ça qui va peut-être permettre à la série de durer.
Renan lève les épaules,
ouais,
il s'en fout un peu.
Mais non, mais en fait, c'est dire à quel point cette rentrée, elle est quand même un peu terne. C'est qu'on en est à se demander si The Good Doctor va être la grande série de la rentrée, qui est franchement, sur le papier, pas excitant, pas très original. Comme tu dis, c'est un mélange de Doctor House, un peu de Grey's Anatomy, parce qu'on va suivre un peu plein de personnages, effectivement un peu de This Is Us. Bon, il y a quand même un petit problème de créativité là.
Last, mais vraiment pas list, hein, c'était par ordre de diffusion, donc c'est pour ça qu'elle arrive en dernier. Terminons cette preview avec la prochaine série de Netflix, produite et réalisée par David Fincher, s'appelle Mindhunter, où l'enquête inspirée de faits réels de deux agents du FBI à la fin des années 70, profilers qui partent à la recherche des pires serial killers emprisonnés aux États-Unis pour comprendre leurs motivations et mieux coincer les successeurs criminels. David Fincher aime les tueurs en série, saura-t-il sérialiser sa passion, chers amis ?
Ouais, moi je suis très là pour le coup, c'est très très enthousiaste et j'ai très très hâte de voir ça. J'ai l'impression que c'est un peu, on avait Masters of Sex et là ça va devenir Masters of Serial Killer, c'est-à-dire une espèce de duo qui va enquêter.
Il n'y aura pas Lizzie Kaplan, c'est dommage.
Ouais, mais je suis, le cast est vraiment génial, notamment il y a Jonathan Groff qui est un acteur
Holt McCallany que j'aimais beaucoup dans Lights Out, que personne ne connaît, mais moi j'aimais beaucoup Lights Out.
Bon, bah, au moins.
Un acteur qu'on n'a pas vu depuis Fringe quasiment, elle a fait des séries en Australie qu'on n'a pas forcément vu.
Et bah, voilà, bah, donc au moins David Fincher vous fait plaisir. Vraiment, c'est vraiment le blockbuster de cet automne, en tout cas le truc qu'on a le plus envie de voir. Fincher, en termes de mise en scène, c'est pas un manche, hein, pour faire une litote. C'est vraiment la série, moi, qui m'excite le plus cet automne, que j'ai envie de voir, ou peut-être que ce sera complètement raté et que ce sera un truc de poseur, ou alors on tient une sorte de suite à Seven, peut-être.
Florian, d'accord avec tout ça ?
Je suis pas du tout tenté, en fait, par Mindhunter, pas du tout. Pour moi, ça me fait penser, au vu du trailer, en fait, à la première saison de True Detective. Je dois être dans la minorité, mais j'ai pas du tout apprécié, en fait. Je trouvais ça un petit peu trop dans la démonstration, trop, c'était too much, en fait. C'était trop sombre pour être sombre, c'était ça. Et là, je pense que Mindhunter, au vu de l'esthétique un peu qu'il a adopté, bon, qui est très Fincher, hein, je pense que ça part un peu dans la même direction. Et puis Jonathan Groff, honnêtement, moi, je suis pas trop convaincu, justement, du choix de l'acteur.
On verra, ça sera intéressant. C'est vrai que moi, j'ai hâte de la voir, pas seulement pour la mise en scène de Fincher, hein. D'ailleurs, c'est pas franchement ce qui m'attire vers cette série-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir à quel point ils vont peut-être pouvoir renouveler cette réflexion qu'Esprit Criminel développe très très mal, c'est-à-dire de savoir à quel point la limite entre celui qui traque le serial killer et le serial killer a besoin d'être souple et perméable pour que celui qui traque le serial killer puisse traquer le serial killer, vous me suivez ? C'est important d'avoir ce genre de réflexion-là, si c'est bien creusé, si c'est bien dialogué. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est le côté tiré de faits réels, parce que c'est finalement l'histoire du serial killer, de l'étude du serial killer, l'histoire du profiling aux États-Unis, et ça, il peut y avoir des éléments quand même assez intéressants à ce niveau-là. Maintenant, c'est vrai que la virtuosité de l'écriture et le rythme de la série importera beaucoup, et c'est vrai que Florian, t'as raison de dire qu'il y a quand même un risque de je me regarde et je fais. C'est d'ailleurs c'est ce qui se passe quand Fincher rate. Enfin, moi, c'est les films de Fincher que j'aime pas, c'est que je trouve qu'en fait, il se regarde beaucoup trop et que finalement, ça m'aime pas du tout. Mais on verra comment tout ça se déroulera.
C'est pas un cinéaste de l'émotion, enfin pas du tout. C'est pour ça que le sujet lui va très bien, à mon avis.
Mindhunter, ce sera sur Netflix le 13 octobre, à suivre donc. Et on termine là-dessus ce premier épisode de Super Sizé de la saison 2 de Un épisode et j'arrête, le podcast de l'ACS, l'association française des critiques de séries en partenariat avec Binge Audio. Merci à Renan Cros de Cinématiseur, Florian Caisse de Combini, Emma et Jean-Maxime Renaud d'Allociné. Merci aussi à Jules Cros de Retour à la Technique et à toutes les équipes de Binge Audio. Merci aussi au public de l'antenne ici dans le 11e arrondissement parisien qui nous accompagne aujourd'hui. Merci à vous. La semaine prochaine, nous débattrons de The Deuce, la nouvelle série de David Simon pour HBO, on vous l'a dit tout à l'heure, et nous en profiterons pour revenir sur la carrière et la critique sociale et politique de l'œuvre de ce créateur hors norme. D'ici là, rendez-vous sur notre page Facebook, suivez-nous sur Twitter, et n'hésitez pas à nous écrire, à commenter, à liker, tout ce qui va avec. Salut à toutes, salut à tous, et à la semaine prochaine.
Next one, next one, next one, next one.
Whoa, wait, 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 wait.